Bien, comme tout le monde est bien ponctuel, eh bien, on va commencer. On est toujours très heureux de vous accueillir. Donc, merci à vous d'être là aujourd'hui. Hein. C'est un rendez-vous maintenant, une coutume, un rendez-vous, un petit rituel. Chaque année, nous nous retrouvons pour ces journées sur l'enfance au quotidien, qui est donc pour nous une manière de donner à voir, hein, avec ce terme l'enfance au quotidien, de donner à voir l'expérience des enfants et des jeunes. Hein, l'idée, c'est vraiment, le fil rouge de nos journées, c'est d'arriver à faire entendre surtout ce point de vue des enfants et des jeunes. Hein, donc voilà pour cette 14e journée, on sera sur cette ambition-là. On vous présentera un tout petit peu plus le contenu tout à l'heure. Moi, je voulais commencer par des remerciements d'abord. Remercier la MRSH qui nous accueille dans ses locaux, qui nous aide financièrement à l'organisation de cette journée. Le Pôle Fête également qui nous aide pour cette journée. Notre laboratoire, le CIRNEF, bien sûr. Et puis, merci aussi aux collègues du CEMU hein, qui sont là chaque année et qui nous permettent ensuite d'avoir eh bien, l'enregistrement de ces journées qui sont en ligne sur le site de notre laboratoire, le CIRNEF, où vous pouvez retrouver quasiment toutes les journées précédentes. Voilà, donc aujourd'hui, 14e journée sur l'enfance au quotidien, avec ce thème où nous avons voulu tourner autour de ce qui nous bouscule en tant qu'adultes dans nos relations avec les enfants et les jeunes. Donc je laisserai ensuite Laurence Comon, ma collègue, en dire un petit peu plus sur le thème lui-même. Moi, je voulais me contenter vraiment de vous parler de l'organisation de la journée. Je pense que c'est tout pour les questions techniques. Je vais donc maintenant inviter Laurence Comon à nous préciser un petit peu ce qu'il est du ressort du contenu même de notre propos d'aujourd'hui, ce qui est quand même le plus intéressant. Voilà.
Bonjour à tous. Bienvenue à cette 14e journée enfance. Donc permettez-moi en quelques mots de vous présenter comment nous avons organisé et choisi le thème de cette journée. Nous sommes très rapidement arrivés au thème des civilités et des incivilités, mais c'est un thème qui est très foisonnant, très vaste, et donc on a dû essayer de resserrer un petit peu ce thème. En effet, les incivilités sont définies par Marilyn Felono et Lida Langrand-Willems comme des actes d'irrespect, d'agression envers autrui et l'environnement. Cela n'entre pas obligatoirement dans la catégorie juridique de la délinquance et du crime, mais ce sont des comportements qui sont peu graves, mais qui peuvent devenir intolérables au quotidien. Bien évidemment, vous pouvez imaginer qu'à l'intérieur de ces comportements de civilité et d'incivilité, on peut avoir dans les incivilités cracher par terre, jeter un papier, écrire sur une table, taguer un mur. La question était de savoir qu'est-ce qui, dans tous ces comportements, peuvent vous interroger, nous poser question en tant que professionnels ou futurs professionnels. Comme nous sommes toujours un peu en veille et à l'écoute des gens qui nous entourent, vous, éducateurs, vous, travailleurs sociaux, enseignants, CPE, nous avons repéré très vite qu'en fait, la question du langage et des comportements des jeunes dans vos structures pouvait être le cœur de notre thème aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous bouscule ? Qu'est-ce qui bouscule d'ailleurs les jeunes eux-mêmes ? Donc, il n'est pas question, vous le savez bien depuis que vous venez nous rencontrer chaque premier mercredi de décembre, il n'est pas question de juger ce comportement, ce langage, en disant que nous, à notre époque, c'était pas comme ça. Mais plutôt d'éclairer nos réflexions en prenant en compte tous les points de vue. Donc, bien sûr, nous prendrons aujourd'hui les points de vue des professionnels qui seront à la table ronde. Donc, Aurélia Butet et Anne-Marie René, que je cherche. Nous prendrons le point de vue de deux spécialistes chercheurs de la question. Monsieur Julien Garrick et Monsieur Cyril Trimaille, qui nous présenteront à travers leurs recherches eh bien, comment répondre à cette question de ce qui peut nous bousculer et pourquoi. À travers leurs études, à travers leurs témoignages, à travers vos témoignages, bien sûr, et vos questions, nous pourrons comprendre, une fois encore, ce qui nous bouscule pour essayer de trouver ou d'éclairer un petit peu la façon dont nous pouvons gérer nos interactions avec les enfants, les jeunes, voir comment réagir. Et il me reste juste maintenant à accueillir Nathalie Dupont qui va vous présenter comment la première partie de cette matinée va se passer.
C'est moi qui lance. Alors, nous avions l'intention dans la préparation de cette journée de mettre en place une table ronde avec des jeunes sur cette question des pratiques langagières. Et puis, c'est quelque chose qui est compliqué, c'est quelque chose qui relève aussi de... C'est compliqué de se mettre en scène pour des collégiens ou des lycéens, de se mettre en scène devant un amphi et de faire usage de pratiques, enfin de mots qui sont peut-être un peu discutables. En tout cas, on ne voulait pas les mettre en difficulté, on ne voulait pas les mettre en danger. Se pose aussi un problème de droit, c'est-à-dire que des jeunes mineurs, c'est pas forcément très facile ensuite quand on veut monter la journée. Donc on a l'obstacle était important. On a renoncé à l'organisation de cette table ronde de jeunes et on a visionné plein de vidéos sur ces questions-là et on a fait des sélections. Donc, dans un premier temps, on va vous proposer deux vidéos qui vont s'enchaîner. Une vidéo d'une minute, donc c'est très court, hein, ça va très vite. Une seconde vidéo qui va durer 6 minutes. Donc voilà, on a un petit... Et à la suite de ces deux vidéos, on souhaite échanger avec vous, on souhaite que vous réagissiez aux propos notamment de ces jeunes ou de ces adultes que l'on verra dans les vidéos. Puis dans un deuxième temps, on va vous proposer une vidéo un petit peu plus longue qui est extraite d'un film qui s'appelle « Les Roses Noires ». Donc une vidéo d'une dizaine de minutes... qui pose aussi ces questions de pratiques sociales langagières et ensuite des échanges avec vous. Donc l'idée c'est de regarder, d'écouter, de réagir, d'activer chez vous peut-être un certain nombre d'échos avec vos pratiques professionnelles ou bien de vous interpeller sur ce qui est en train de se passer dans les échanges entre ces jeunes et puis sur ce qu'ils disent aussi, ce qu'ils nous disent finalement de ces relations aux adultes. Donc voilà, comment vous réagissez, quel type de questions vous vous posez, et donc vous aurez la parole et puis on essaiera à chaque fois. C'est vraiment ce que disait Julie tout à l'heure, ce qu'on veut c'est vraiment valoriser les échanges. Donc le temps, on a plutôt un quart de vidéos pour trois quarts de temps d'échange. Donc n'hésitez pas, vous avez des questions, vous avez des réactions, tout sera intéressant. On peut y aller peut-être ?
On y va.
On y va. Première...
On n'éteint pas ? On laisse comme ça ?
Oui. Surprise aujourd'hui sur les expressions utilisées par les jeunes.
Les rôles sont inversés. Basile, élève de seconde, joue les professeurs avec le personnel de son lycée.
Wesh. Être en PLS.
La chef d'établissement s'applique.
Bélec.
Mais bute sur ces expressions employées par les jeunes. Vous connaissez, vous, finalement ?
Non, pas du tout.
Là, j'ai une découverte. Une découverte pour la plupart des adultes, une évidence pour les adolescents. Être en PLS. Une expression détournée par les adolescents. Elle signifie à l'origine être en position latérale de sécurité. Ce vocabulaire, Liam et ses copains l'utilisent tous les jours.
Où je t'en fais, je
t'en fais. Ça fait un peu moi et un peu stylé.
Ouais, ceux qui parlent comme nous, on est plus amis. Ceux qui parlent pas comme nous, on n'est pas trop amis.
Ces mots, ils les retrouvent sur Internet. Des rappeurs les chantent très sérieusement, tandis que des humoristes les tournent en dérision.
Bon, moi, ce que je kiffe concrètement, c'est le chill avec les meufs.
Voilà, ou la nana dit « Ah non, mais moi, je vais les prendre parce que franchement, c'est trop un bolos. »
Mais quelle est l'origine de ces mots?
On pourrait croire que ce sont les grands écrivains, les poètes, etc. Non, c'est des mots qui viennent des banlieues et la création, l'argot est toujours venu.
Alors, comme tout le monde est bien ponctuel, est-ce que ça marche, ça? Ça va? Vous m'entendez? Oh, c'est drôle, moi je m'entends pas, mais si vous m'entendez, c'est l'essentiel. Bien, comme tout le monde est bien ponctuel, eh bien, on va commencer. On est toujours très heureux de vous accueillir, donc merci à vous d'être là aujourd'hui. Voilà, une coutume, un rendez-vous, un petit rituel. Chaque année, nous nous retrouvons pour ces journées sur l'enfance au quotidien, qui est donc pour nous une manière de donner à voir, avec ce terme l'enfance au quotidien, de donner à voir l'expérience des enfants et des jeunes. L'idée, c'est vraiment, le fil rouge de nos journées, c'est d'arriver à faire entendre surtout ce point de vue des enfants et des jeunes. Donc voilà pour cette 14e journée, on sera sur cette ambition-là. On vous présentera un tout petit peu plus le contenu tout à l'heure. Moi, je voulais commencer par des remerciements d'abord. Remercier la MRSH qui nous accueille dans ses locaux, qui nous aide financièrement à l'organisation de cette journée. Le Pôle Fête également qui nous aide pour cette journée. Notre laboratoire, le CIRNEF, bien sûr. Et puis, merci aussi aux collègues du CEMU qui sont là chaque année et qui nous permettent ensuite d'avoir l'enregistrement de ces journées qui sont en ligne sur le site de notre laboratoire, le CIRNEF, où vous pouvez retrouver quasiment toutes les journées précédentes. Voilà, donc aujourd'hui, 14e journée sur l'enfance au quotidien, avec ce thème où nous avons voulu tourner autour de ce qui nous bouscule en tant qu'adultes dans nos relations avec les enfants et les jeunes. Donc je laisserai ensuite Laurence Comon, ma collègue, en dire un petit peu plus sur le thème lui-même. Moi, je voulais me contenter vraiment de vous parler de l'organisation de la journée. Donc avec une matinée d'abord, où vous verrez, on va commencer par des petits extraits vidéo, je ne vous en dis pas plus. On aura ensuite la conférence de Cyril Trimaille, également qui sera présentée par Laurence Comon, donc j'en dis pas davantage. On aura même une petite pause, je crois, entre les deux. Chaque fois, on aura un temps d'échange, puisque c'est vraiment aussi l'intention de cette journée, c'est que vous ayez le temps de faire part de vos témoignages, de vos questions. Je précise bien que toutes les questions sont intéressantes, même celles des étudiants qui parfois sont un peu timides à prendre la parole. Voilà, n'hésitez pas. Cette journée est pour vous. Voilà, donc effectivement, on a dans le public beaucoup d'étudiants, vous le voyez, des professionnels, des chercheurs. Voilà, donc c'est aussi cette hétérogénéité du public qui nous intéresse, de faire aussi se rencontrer ces différents publics. On aura donc ensuite la pause déjeuner. Petite précision encore de l'ordre de l'organisation. Pour cette pause déjeuner, nous pouvons aller déjeuner au restaurant universitaire. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous nous suivez, mais en gros, il faut monter et puis c'est sur la droite. Il faut payer, si vous n'avez pas la Léo-carte de l'université, il faut payer en carte bleue. Voilà. Il y aura peut-être un petit peu d'attente, mais donc nous avons une pause. Nous reprenons ensuite à 14h, comme indiqué sur le programme. Donc, on devrait avoir le temps. J'en profite dans les points aussi très pragmatiques. Si vous avez besoin d'attestation de présence, Nathalie Dupont pourra vous en faire. Voilà, ensuite cet après-midi, on aura donc une table ronde avec nos deux invités, Aurélia Dutet et Anne-Marie Runet, avec nos invités. Et donc, grâce à cette préparation qu'on a pu avoir, ça nous permettra aussi de restituer un petit peu son propos. Enfin, je laisse les collègues en dire plus tout à l'heure. Voilà, on aura ensuite la conférence de Julien Garrick, que j'introduirai très rapidement. Et puis, évidemment, à chaque fois, les temps d'échange après la table ronde et après la conférence. Encore un mot pour vous dire que... qu'à notre laboratoire sont adossées quatre revues, les sciences de l'éducation pour l'ère nouvelle, le Télémac, Penser l'éducation et Frantis, qui est une revue en ligne. Pour aujourd'hui, donc, nous vous avons préparé une petite sélection de la revue Les sciences de l'éducation pour l'ère nouvelle, une sélection de quelques numéros en lien avec la thématique du jour. Et on vous les propose en vente à un prix préférentiel de 10 euros au lieu de 15 euros. Voilà. Ils sont là, vous pouvez les consulter. Et puis si vous voulez en acheter, vous nous faites signe. Je pense que c'est tout pour les questions techniques. Je vais donc maintenant inviter Laurence Caumont à nous préciser un petit peu ce qu'il est du ressort du contenu même de notre propos d'aujourd'hui, ce qui est quand même le plus intéressant. Voilà.
Bonjour à tous. Bienvenue à cette 14e journée enfance. Donc permettez-moi en quelques mots de vous présenter comment nous avons organisé et choisi le thème de cette journée. Nous sommes très rapidement arrivés au thème des civilités et des incivilités, mais c'est un thème qui est très foisonnant, très vaste, et donc on a dû essayer de resserrer un petit peu ce thème. En effet, les incivilités sont définies par Marilyn Fellonneau et Lida Langrand-Willems comme des actes d'irrespect, d'agression envers autrui et l'environnement. Cela n'entre pas obligatoirement dans la catégorie juridique de la délinquance et du crime, mais ce sont des comportements qui sont peu graves, mais qui peuvent devenir intolérables au quotidien. Bien évidemment, vous pouvez imaginer qu'à l'intérieur de ces comportements de civilité et d'incivilité, on peut avoir dans les incivilités cracher par terre, jeter un papier, écrire sur une table, taguer un mur. La question était de savoir... qu'est-ce qui, dans tous ces comportements, peuvent vous interroger, nous poser question en tant que professionnels ou futurs professionnels. Comme nous sommes toujours un peu en veille et à l'écoute des gens qui nous entourent, vous, éducateurs, vous, travailleurs sociaux, enseignants, CPE, nous avons repéré très vite qu'en fait, la question du langage et des comportements des jeunes dans vos structures pouvait être le cœur de notre thème aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous bouscule ? Qu'est-ce qui bouscule d'ailleurs les jeunes eux-mêmes ? Donc, il n'est pas question, vous le savez bien depuis que vous venez nous rencontrer chaque premier mercredi, tous les points de vue. Donc, bien sûr, nous prendrons aujourd'hui les points de vue des professionnels qui seront à la table ronde. Donc Aurélia Butet et Anne-Marie René, que je cherche. Nous prendrons le point de vue de deux spécialistes chercheurs de la question, M. Julien Garrick et M. Cyril Trimaille, qui nous présenteront à travers leurs recherches eh bien, comment répondre à cette question de ce qui peut nous bousculer et pourquoi. À travers leurs études, à travers leurs témoignages, à travers vos témoignages, bien sûr, et vos questions, nous pourrons comprendre, une fois encore, ce qui nous bouscule pour essayer de trouver ou d'éclairer un petit peu la façon dont nous pouvons gérer nos interactions avec les enfants, les jeunes, voir comment réagir. Et il me reste juste maintenant à accueillir Nathalie Dupont qui va vous présenter comment la première partie de cette matinée va se passer.
C'est moi qui lance. Alors, nous avions l'intention, dans la préparation de cette journée, de mettre en place une table ronde avec des jeunes sur cette question des pratiques langagières. Et puis, c'est quelque chose qui est compliqué, c'est quelque chose qui relève aussi de... C'est compliqué de se mettre en scène pour des collégiens ou des lycéens, de se mettre en scène devant un amphi et de faire usage de mots qui sont peut-être un peu discutables. En tout cas, on ne voulait pas les mettre en difficulté, on ne voulait pas les mettre en danger. Se pose aussi un problème de droit, c'est-à-dire que des jeunes mineurs, ce n'est pas forcément très facile ensuite quand on veut monter la journée. Donc on a l'obstacle était important. On a renoncé à l'organisation de cette table ronde de jeunes et on a fait on a visionné plein de vidéos sur ces questions-là et on a fait des sélections. Donc dans un premier temps, on va vous proposer deux vidéos qui vont s'enchaîner, une vidéo d'une minute
Donc c'est très court, hein, ça va très vite. Une seconde vidéo qui va durer 6 minutes. Donc voilà, on a un petit... Et à la suite de ces deux vidéos, on souhaite échanger avec vous, on souhaite que vous réagissiez aux propos de, notamment de ces jeunes ou de ces adultes que l'on verra dans les vidéos. Puis dans un deuxième temps, on va vous proposer une vidéo un petit peu plus longue, qui est extraite d'un film qui s'appelle Les Roses Noires, donc une vidéo d'une dizaine de minutes, qui pose aussi ces questions de pratique sociale langagière, et ensuite des échanges avec vous. Donc l'idée, c'est de regarder, d'écouter, de réagir, d'activer chez vous peut-être un certain nombre d'échos avec vos pratiques professionnelles, ou bien de vous interpeller sur ce qui est en train de se passer dans les échanges entre ces jeunes, et puis sur ce qu'ils disent aussi, ce qu'ils nous disent, finalement, de ces relations aux adultes. Donc voilà, comment vous réagissez, quel type de questions vous vous posez, et donc vous aurez la parole, et puis on essaiera à chaque fois. C'est vraiment c'est ce que disait Julie tout à l'heure, ce qu'on veut, c'est vraiment valoriser les échanges. Donc le temps, on a plutôt un quart de vidéo pour trois quarts de temps d'échange. Donc n'hésitez pas, vous avez des questions, vous avez des réactions, tout sera intéressant. On peut y aller peut-être ?
On y va.
Première...
On n'éteint pas ? On laisse comme ça ?
Oui. Surprise aujourd'hui sur les expressions utilisées par les jeunes.
Les rôles sont inversés. Basile, élève de seconde, joue les professeurs avec le personnel de son lycée.
Wesh. Être en PLS.
La chef d'établissement s'applique.
Bélec.
Mes buts sur ces expressions employées par les jeunes. Vous connaissez, vous, tous les mots ?
Non, pas du tout.
La même découverte. Une découverte pour la plupart des adultes, une évidence pour les adolescents. Être en PLS, une expression détournée par les adolescents. Elle signifie à l'origine être en position latérale de sécurité. Ce vocabulaire, lié à ses copains, l'utilise tous les jours.
Ça fait un peu gros et un peu stylé.
Ouais, ceux qui parlent comme nous, on n'est plus amis. Ceux qui parlent pas comme nous, on n'est pas trop amis.
Ces mots, il les retrouve sur Internet. Des rappeurs les chantent très sérieusement. Tandis que des humoristes les tournent en dérision.
Bon, moi, ce que je kiffe concrètement, c'est le style avec des meufs.
Voilà, où la nana dit « Ah non, mais moi, je vais les prendre parce que franchement, c'est trop un veloce. »
Mais quelle est l'origine de ces mots ?
On pourrait croire que ce sont les grands écrivains, les poètes, etc. Non, c'est des mots qui viennent des banlieues. Et la création, l'argot, est toujours venue des classes populaires, en fait. C'est les classes populaires qui sont souvent les plus créatives.
Une créativité parfois reconnue par les spécialistes de la langue française. Chaque année, une dizaine de ces expressions entrent dans le dictionnaire, invitant les jeunes à en inventer de nouvelles.
C'était la première vidéo.
Surprise aujourd'hui sur les
Seconde vidéo, un tout petit peu plus longue.
Ah mec, t'avais combien en tout cas ?
J'ai eu 14. Ça me fait trop. J'ai trop le seum un peu de ça. Toi, la voleuse, t'as eu combien ?
J'ai
eu 17.
Mais
toi,
t'as
eu. Vas-y, c'est froid. Vous avez eu du mal à suivre cette conversation, rassurez-vous, c'est normal. Quand les adolescents jouent avec la langue française, ils parlent de bolos, clash ou seum. Pour Félix, 14 ans, le dernier mot à la mode, c'est stève.
Stève, ça veut dire... c'est taille, enfin, on s'en fout, quoi.
Stève, ce mot n'existe pas dans le dictionnaire, pourtant les jeunes l'ont bel et bien appris en classe, ou plutôt dans la cour de récréation et sur la toile.
Tous ces mots, ils viennent des réseaux sociaux. On a vu les autres faire ça, et du coup, on s'est adapté et on a fait pareil, en fait.
Un nouveau langage pour paraître plus cool que les parents ont bien du mal à comprendre.
Par exemple, bolos, vu que je le dis assez souvent, il s'habitue, il me demande c'est quoi. Mais il y a des mots comme swab ou tout ça, ils comprennent pas.
Apprendre le français à ses enfants, ce n'est déjà pas simple, alors quand la rue s'en mêle, les parents ont du souci à se faire. En 1980, l'argot fait son grand retour et de nouveaux mots comme flouze ou keuf naissent dans les cités. En 1990, c'est la folie du verlan et tous les jeunes parlent à l'envers. On trouve charmé d'aller avec sa meuf au ciné. Le langage de la rue devient petit à petit le langage des jeunes, une manière codifiée de s'exprimer pour se démarquer de ses aînés et notamment des parents. Aujourd'hui, rien n'a changé et de nouveaux mots ont fait leur apparition, des mots barbares comme stèle ou swag qui figureront peut-être un jour dans le dictionnaire. Sandrine, la mère de Félix, est aussi perdue que ses adultes et ne comprend pas toujours le langage de son fils. Nous avons décidé de lui montrer la petite séquence que nous avons tournée à la sortie du collège.
Moi, je suis trop en soi dans mon maths. Ouais, j'ai dit ça. Ouais, vas-y, tu la classes trop bien, toi.
Ahmad a dit quelque chose que j'ai pas compris. En début de phrase, je ne pourrais même pas le répéter.
Sandrine est perplexe. Félix et Robin, son ami, vont l'aider à décoder leur conversation.
Vous allez m'aider, vous allez m'expliquer.
Moi, je suis trop en soi dans mon maths. Ouais, j'ai dit ça.
Non, je suis trop en swag. Qu'est-ce que ça veut dire, je suis trop en swag?
Ça veut dire... Non, elle est classe.
Elle est classe, quoi. Elle est stylée.
Ouais, ouais.
Merci. Vas-y, tu la classes trop bien, toi.
Alors ça, ça veut dire quoi, tu la classes trop bien? Il parle de qui, là?
Tu la classes, quoi.
D'accord, ouais, d'accord.
Sandrine a du mal à comprendre son fils, mais elle le reconnaît, chaque génération a ses codes.
C'est marrant, parce que je me replonge, j'essaie de trouver ce qu'on utilisait, nous, comme terme, quand on avait 13-14 ans, j'ai pas ce sentiment qu'on avait des mots comme ça que nos parents comprenaient pas.
Ce langage, les parents n'y comprennent rien, mais pour Alain Rey, qui dirige un des dictionnaires les plus vendus, pas de panique, ces nouveaux mots montrent que la langue française est une langue bien vivante.
Ça a changé entre le 15e siècle et le 19e. Entre le 19e siècle et aujourd'hui, je vois pas pourquoi ça changerait pas encore maintenant. Il n'y a aucune raison que ça s'arrête tout d'un coup. Si ça s'arrête, la langue est morte.
Les parents inquiets peuvent donc se rassurer et le meilleur moyen de comprendre son enfant, c'est de s'intéresser à son langage.
Les parents peuvent s'inquiéter éventuellement s'ils trouvent que leurs enfants parlent très mal. L'enfant vous dit quelque chose que vous ne comprenez pas, dites-lui que vous ne le comprenez pas, parce que ça deviendra important pour eux et comprennent que la langue c'est fait pour l'autre.
Selon notre spécialiste, les jeunes utilisent un vocabulaire réduit à 1500 mots lorsqu'ils parlent entre eux, contre 3000 mots pour un adulte. Un appauvrissement de la langue qui à terme peut devenir un handicap, notamment lors d'un entretien ou d'une recherche d'emploi.
Ce langage jeune est nouveau, intéressant, créatif, élégant parfois. Sauf que je veux que ces jeunes aient aussi la capacité de pouvoir parler avec tout le monde et de tout.
Ces mots qui font peur aux parents sont pourtant enseignés dans la plus ancienne université française, la prestigieuse Sorbonne.
Maintenant, on n'aime plus une fille, on kiffe une fadouf. Tout le monde le sait.
Dans la classe de Jean-Pierre Goudaillé, on vient des quatre coins d'Europe pour apprendre à parler tous les Français.
Dans mon français, il y a ce français-là, il y a le français que je suis en train de vous parler en ce moment, il y a le français que je lis dans les livres, et en fonction des gens à qui je parle, je vais utiliser un français plutôt bien.
Ce professeur est le seul en France à enseigner le langage des jeunes, et pour lui, il ne faut pas stigmatiser ce qu'il emploie.
À partir du moment où on interdit dans le scolaire l'emploi d'un registre de langue, la personne qui parle de registre de langue se sent frustrée, donc pour lui c'est une agression.
Le parler jeune a donc sa place dans notre langue, mais attention, il n'est pas adapté à toutes les situations. Quand on passe un examen, il vaut mieux parler un bon français.
Pour passer le bac, on est censé parler cette langue-là et l'écrire. C'est celle-là, c'est pas l'autre. C'est le genre de question d'aller avec la langue des basket-casquettes au bac. On va avec la langue des fossa-cravates.
Moralité, pour éviter de passer pour un bolos au bac, et que vos parents aient le seum, privilégiez le français des livres à celui de la rue.
Voilà, deux premières vidéos qui nous disent déjà pas mal de choses, hein, et sur les relations entre les générations et sur la capacité peut-être des jeunes à composer en, finalement entre différents langages. Questions ? Réactions ? Thank you. ça vous parle? Est-ce que ça vous parle, ce genre de comportement? Est-ce que ça vous... Vous l'avez rencontré dans vos... ou dans les relations entre pairs ou sur le plan professionnel? Comment vous avez réagi? Comment vous avez appréhendé ce type de situation? Ça va être mieux pour l'enregistrement. On ne vous voit pas, mais on va avoir votre question. Non.
Moi, j'étais AED dans un établissement et en effet, on entend beaucoup ce genre de mots. C'est un peu devenu la langue courante. Après, il y a des choses, enfin, je suis pas trop de l'ancienne génération non plus, mais il y a des choses où on peut considérer ça comme des insultes. Enfin, moi, personnellement, il y a des mots, par exemple, bolos, etc. Ils emploient ça dans le langage courant, mais pour quelque chose d'assez péjoratif. Donc du coup, moi je trouve ça dommage parce que il y a d'autres mots à utiliser plutôt que celui-là. Et même si c'est dans le langage courant, en effet, moi je trouve qu'il y a des mots qui sont un peu comme des insultes en fait.
Oui, ça c'est vous, c'est votre sentiment.
Ouais.
Mais comment en tant qu'AED vous travaillez sur ces questions-là?
Après, je leur dis clairement qu'il y a d'autres mots à utiliser dans la langue française et que on leur dit bien que c'est dans le langage courant, on comprend bien, mais que c'est pas des propos à tenir, même n'importe quel mot péjoratif, en soi on est dans le respect d'autrui, donc je trouve ça important de remettre un petit peu les choses à leur place et qu'ils se parlent avec respect, quoi.
Et est-ce que ce qui est péjoratif pour vous l'est pour eux?
Non, justement. Après, personnellement, je leur explique en quoi ça peut être un petit peu péjoratif, et on sait jamais comment la personne en face elle va réagir, en fait. Donc peut-être que pour elle également, ça peut être un signe d'insulte.
Et est-ce que vous faites un travail avec eux? Est-ce que ça fait l'objet de, je sais pas, de...
C'est plus des conversations informelles. Donc c'est pour ça.
Ok, mais est-ce que vous pensez que ça pourrait faire l'objet ou que ça devrait faire l'objet de...
Oui.
Peut-être d'une réflexion plus approfondie ou d'ateliers ou
Oui,
de...
je pense que les ateliers pour le respect d'autrui, ça peut être sympa. D'autant plus que c'est important quand même, mine de rien. Ça va dans la citoyenneté. Donc ce serait bien, malheureusement, dans l'établissement scolaire que j'ai fait, on ne voit pas forcément ce genre d'atelier, ça reste sous forme de conversation informelle et finalement les jeunes n'apprennent pas, du moins dans mes établissements. Et c'est dommage parce que justement ils pourraient se parler autrement, je pense. Voilà.
Ok. Ok. Vous avez parlé de langue courante. C'est quoi pour vous la langue courante? C'est par rapport à ce qu'ont évoqué aussi les chercheurs ou...
Oui, alors la langue courante, je parle de ça, encore une fois, je ne suis pas de la génération très ancienne non plus, mais on n'avait pas ce langage-là. Enfin, je sais qu'il y a eu des choses, par exemple, actuellement, moi, dans des conversations pareilles entre amis ou quoi, ça m'arrive d'utiliser des mots, quoi. Mais par contre, après, je sais faire la distinction avec le professionnel. Tandis que pour les jeunes de maintenant, c'est, je pense, un petit peu plus compliqué. C'est vraiment rentrer dans leur langue, parler tout le temps, quoi.
Ok, merci.
Mais on s'aperçoit dans la vidéo qu'ils disent qu'ils créent de nouveaux mots constamment et dès que ça rentre dans le dictionnaire et dans la langue française et que ça y est inscrit, ils en réinventent de nouveaux. Et faudrait peut-être se demander... Est-ce que c'est une manière pour eux de s'exclure justement de ce monde formel et du monde des adultes et une façon de rester entre eux finalement?
D'accord, ça c'est votre analyse. Plus peut-être de se démarquer, peut-être que plus que de s'exclure peut-être.
Oui.
C'est juste. D'accord. Est-ce que vous êtes également AED ou?
Non, je suis étudiante en master MEF et je suis en stage dans un collège.
Et qu'est-ce que vous constatez ?
Je constate que souvent, ils essayent de discuter avec les adultes de manière informelle en utilisant ces termes-là, tout en sachant que les adultes ne vont pas forcément les comprendre. Et ça a l'air de les faire rire quand ils sont ensemble. Donc c'est pour ça que je me demande si ce n'est pas une manière pour eux de se retrouver entre eux dans un milieu où ils sont constamment avec des enseignants, avec du personnel éducatif.
Mais par rapport à l'intervention précédente, vous n'êtes pas dans un... Vous ne considérez pas que ce sont des insultes, vous considérez que ce sont des propos finalement qui démarquent ou qui positionnent les jeunes.
Oui, ça me paraît plus comme un outil d'intégration entre eux, un moyen de se lier et de se reconnaître entre eux, tout en gardant une certaine distance avec le monde des adultes dans lesquels ils sont bercés pendant toute leur scolarité.
Alors, j'avais juste une autre question. Est-ce que, par rapport à ce qu'on a vu sur la vidéo, est-ce que vous avez le sentiment qu'ils sont capables de composer ? C'est-à-dire que quand ils sont entre eux, ils ont un certain comportement. Quand ils sont avec les adultes ou en classe, ils en ont un autre. Est-ce qu'ils ont des pratiques, finalement, différenciées ou ajustées, adaptées aux...
Oui, je pense qu'on voit en établissement, ils s'ajustent en fonction de la personne avec qui ils communiquent. Mais je pense que quand ils utilisent leurs termes, ça peut être une forme de réaction. Quand ils sont en insécurité, peut-être face à un adulte, d'utiliser leurs termes, ça leur permet de se recentrer sur leur monde à eux et peut-être de se rassurer.
D'accord, merci. Il y avait quelqu'un.
Merci. Est-ce qu'on m'entend bien ou... Oui, d'accord. De mon point de vue, c'est surtout pour ces jeunes, c'est une manière de évidemment s'intégrer, mais aussi une codification de leur langage pour un petit peu échapper au langage courant, avec un langage familier qui leur est propre, pour pouvoir se socialiser et surtout développer leur identité, mis à part de leurs parents ou d'adultes. Pour pouvoir explorer aussi, vraiment être dans un entre-soi générationnel ou autre. Sauf que, dans certaines fois, vu que je suis tout de même encore assez jeune, je comprends totalement tous les termes, et donc parfois ça leur joue un peu des tours, où ils se disent « Ah mais en fait, vous comprenez ça ?»« Oui, oui, je comprends. » Donc c'est toujours assez drôle, ce genre de petit décalage, mais surtout, ça dépend aussi du contexte de parole. Si, admettons, ces mêmes jeunes doivent réaliser des plaidoyers ou des débats, ils ne vont pas forcément employer ce même type de langage. Ils vont se conformer aux critères de réussite de l'exercice et au langage qui leur était demandé. Voilà. Je suis étudiant Master MEF en M2, donc en deuxième année, parcours professeur documentaliste. J'aurais aussi une remarque, c'est sur les extraits vidéo. Je trouve qu'ils sont intéressants, mais je trouve qu'il n'y a pas forcément tout ce qui est autour des réseaux sociaux, du langage SMS de ces jeunes qui structurent leurs interactions et discussions, ou vraiment aussi l'utilisation d'hashtags ou d'écriture augmentée via le numérique, peut aussi être intéressant de voir comment ils interagissent ou autre. Et donc ça me fait aussi poser la question de la date de ces vidéos, où je trouve aussi que ça représente un petit peu plus mon époque où j'étais encore élève. Donc je me suis un peu retrouvé dans ces situations, sans ces termes ou autres, dans ces situations. Donc c'était vraiment... assez intéressant.
L'idée, c'était de provoquer un peu. Vous avez raison, oui. Oui, elles sont un peu caricaturales, mais effectivement, la question des réseaux sociaux, elle est la
communication sur les réseaux sociaux, elle est importante. À la différence que quand vous êtes en interaction directement avec, avec les personnes, avec les jeunes, il y a cette interaction et, l'adulte est bousculé dans une interaction en présentiel. La question des réseaux, elle échappe en grande partie aux adultes. Elle produit des effets sur lesquels il est difficile peut-être d'intervenir. Je ne sais pas. Vous êtes AED aussi dans un... Ah non, vous n'êtes pas AED.
Non. Je suis stagiaire sur mes lieux de stage, etc. En tant que futur professeur documentaliste. Donc, on a une place un petit peu particulière vis-à-vis du relationnel aussi avec les élèves. Grâce au CDI, on peut les rencontrer pour des espaces soit de formation, soit de lecture, ou d'autres activités en lien aussi avec... l'ouverture culturelle ou juste gestion du fond, enfin juste le fond documentaire avec des documents proposés ou la médiation globalement.
Mais par rapport à ce que dit le professeur de la Sorbonne dans la vidéo sur le fait d'apprendre tous les langages, ça c'est quelque chose. Vous qui êtes prof documentaliste, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ou...
Je dirais que finalement, c'est aussi c'est faire cet effort de médiation entre les différents acteurs de la communauté éducative, qu'on puisse interagir avec un élève ou un personnel de l'administration ou autre. C'est de pouvoir adapter son langage et son registre en fonction des situations et des besoins qui sont identifiés. Donc, pour permettre une communication qui soit claire et précise.
Donc il y a un vrai projet d'éducation qui sous-tend ça.
Oui.
Ok. Autre...
Bonjour, du coup, je ne sais pas si on entend. Oui, non ?
Oui,
si. Je ne sais pas, moi je m'entends pas. j'avais l'impression aussi que ça pouvait être un moyen d'exprimer vraiment ces émotions, des émotions qui parfois peuvent dépasser les jeunes. Et du coup, je trouve que, enfin, je rejoins un peu les propos qui ont été cités avant, mais je pense que c'est aussi important qu'on puisse essayer d'aller vers eux dans ces moments-là, qu'on puisse essayer de comprendre ce qu'ils ont à nous dire. Alors, ils sont pas toujours tendres, en effet. Il y a des mots qui peuvent être compliqués parfois à entendre, et je ne dis pas qu'il faut tout accepter, hein, c'est pas ça. Mais parfois, j'ai l'impression qu'il faut en effet faire cet effort-là. D'aller vers le jeune qui n'est pas forcément bien à ce moment-là et qui peut se montrer un peu virulent. Je sais que ça m'est déjà arrivé en entretien d'avoir un jeune qui... Enfin, excusez-moi de parler comme ça, mais qui me dit « Voilà, vas-y, toi, tu comprends pas de toute façon. » Et du coup, au début, je me suis dit « Ouh, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui... » Et du coup, je lui ai dit « Ok, je comprends pas. Eh ben, explique-moi, en fait. » Et explique-moi ce qui se passe et donne-moi avec tes mots à toi ce que tu ressens et ce que tu as besoin d'exprimer. Et en fait, au départ, il s'est un peu moqué, etc. Et puis il s'est pris au jeu et il m'a dit écoute, pour la prochaine fois, t'écoutes telle et telle chanson et on pourra en discuter. Donc c'est vrai que alors, du coup, moi, je suis pas du tout rap à la base, mais du coup, j'ai écouté des chansons, etc. J'ai appris aussi un certain vocabulaire et ça m'a permis aussi de mieux communiquer avec lui. Alors encore une fois, on n'était pas dans un échange d'insultes du tout, hein, mais c'est vrai que c'était un langage un peu particulier que je ne maîtrisais et que je ne maîtrise pas forcément. Mais du coup, ça m'a permis d'entrer en relation avec ce jeune-là et avec beaucoup d'autres jeunes après aussi. Donc, et c'est vrai que c'est dans ce qu'il me disait aussi, c'était un moyen de mettre à distance parce que, donc c'est un peu ce qu'il disait aussi dans la vidéo, mais une meuf et une femme, c'est pas forcément la même chose non plus quand on dit ouais, je vais avec ma meuf. C'est vraiment cette mise à distance du c'est une femme, mais pas vraiment. Mais je sais pas si je m'exprime assez clairement, mais en tout cas, c'est ce que j'en ai un peu compris aussi.
Merci. Réaction ?
Moi, j'ai un regard un peu plus vieille.
plutôt de professionnels, pas de ce secteur-là. Je dirais que chaque corporation a ses codes langagiers et que je pense que c'est un code langagier parmi d'autres, en fait, chez les jeunes. Chaque profession a sa, a son vocabulaire qui lui est propre, a sa façon de parler. Et voilà, je crois que c'est leur... Enfin, sans jugement ou positif ou négatif, je crois que c'est leur code langagier qu'ils développent entre eux dans le secteur de l'école, qui peut être aussi considéré comme leur secteur de travail. Quoi.
Voilà. Ouais. Mais peut-être, oui, on va vous donner la parole. Mais la question que je me pose en vous entendant, c'est à quel moment l'adulte est bousculé ? C'est-à-dire à quel moment, ok, c'est un code, ok, ils ont, à quel moment l'adulte est dérangé, se sent agressé, se sent insulté, ou voilà, qu'est-ce qui fait que ça, à un moment, ça bascule finalement ?
Eh bien, peut-être par le fait que déjà l'adulte le comprend pas toujours, donc ça c'est, d'une certaine manière, il se sent un petit peu exclu, ou peut-être dans l'autre sens parce que c'est un, l'adulte juge ce code langagier comme pas forcément adapté à comment dire à tous les domaines d'activité ou pas forcément perçu comme favorable. C'est-à-dire qu'à l'école, c'est aussi un lieu d'apprentissage, donc on essaie d'apprendre plutôt un vocabulaire qui est reconnu par le dictionnaire, qui va être utilisé dans la société en général, et que ce vocabulaire-là fait un petit peu défaut pour l'adulte, puisqu'il le maîtrise pas et qu'il sait qu'on ne l'utilisera pas dans le monde professionnel. Donc quelque part, il est un peu dérangé par ce vocabulaire et essaie de l'écarter pour peut-être essayer de ramener les élèves dans une forme de norme langagière. Je sais pas si
je... Ouais. La question des normes, on ne l'a pas encore.
Moi, je trouve que ce qui est encore plus déroutant quand on est face à des enfants, c'est quand il y a un mot que tout le monde comprend, mais de façon différente. Qui a un sens différent. Et bon, du coup, j'ai un exemple, mais je ne sais pas si je peux dire des gros mots ou pas.
On va ouvrir les guillemets, et puis on va fermer
voilà,
les guillemets.
Voilà, c'était en animation, donc il y a un enfant qui était dans son coin. Donc, je vais le voir, et il m'explique qu'ils étaient tranquillement en train de se dire, entre guillemets, « nique sa race », et donc que tout allait bien, et que d'un coup, il y en a un qui a dit « nique sa mère », et que là, ça n'allait pas. Et en fait, pour moi, le même « tout allait bien » avec le « nique sa race », ben non. Mais parce que je comprenais ce qu'il disait, mais le sens est différent. Et quand je lui ai demandé de m'expliquer la différence entre les deux, il m'a juste dit bah non, mais ça se fait pas, nique ta mère, ça se fait pas. Donc c'est là, je trouve que c'est encore plus déroutant parce qu'au final, ben, je savais pas quoi lui dire. Parce que, enfin, moi, je lui ai juste dit écoute, les mots ont un sens, mais en même temps, en disant ça, ben, je me mets de mon point de vue à moi et pas du sien, parce que pour lui, là, ils ont un sens aussi, quoi. Sinon, il aurait pas réagi comme ça. Mais je trouve que c'est ça qui est un petit peu déroutant. Mm-hmm.
Pour ma part, je me demande si on ne serait pas un peu trop centré sur nos codes langagiers. Parce que ce qu'on peut remarquer, par exemple, dans mon stage, c'est qu'ils analysent beaucoup la façon d'interagir des adultes pour savoir à peu près comment s'adresser à nous. Mais nous, dans tout ça, on a l'air perdus, sans savoir trop comment eux, ils s'expriment et comment on pourrait comprendre leurs interactions, alors qu'ils sont sans cesse en train d'analyser les nôtres pour savoir comment interagir avec nous.
Et alors, vous l'analysez comment ? C'est quoi ? C'est une posture de... Allez au bout de votre...
Je me demande juste si il ne serait pas légitime d'inverser les rôles et de nous, en tant qu'adultes, essayer d'analyser autant qu'ils le font leurs pratiques langagières pour pouvoir se comprendre mutuellement et de ne pas les mettre dans des positions... où ce sont sans cesse eux qui sont en train d'analyser, en train de devoir s'adapter, en train d'essayer d'entrer dans un monde auquel, pour le moment, ils ne sont pas familiers.
Ok. Une question peut-être de domination des adultes aussi par rapport à eux ou... Est-ce qu'on en pense ça dans ce que vous dites ? Ou de légitimité, ou les adultes qui se sentent plus légitimes que...
Oui, je pense que nos codes langagiers sont jugés plus légitimes, alors qu'en revanche, dans leur groupe à eux, c'est ne pas adapter leur code entre eux qui n'est pas légitime. Donc c'est une question de posture, de point de vue. Et je me demande si au lieu d'opposer ces légitimités, il ne serait pas plutôt logique de faire le chemin dans les deux sens.
Merci. Cyril Trimaille.
Merci. Je voulais juste rebondir sur l'intervention précédente à propos de Nick Samer et Nick Saras. En fait, pardon, Nick Saras, on a tendance à considérer que c'est une insulte très forte parce qu'on a en tête le mot race avec le sens race raciale. Race, en fait, ça vient de l'arabe, ça veut dire tête. Du coup, on a perdu un peu ce sens, mais dans le vocabulaire adolescent, c'est sans doute beaucoup moins fort que Nick Samer, qui là, pour le coup, est une figure sacrée, enfin, en tout cas construite comme telle. Et je trouve intéressant, justement, vous parliez de mots dont on ne connaît pas le sens, en tout cas derrière lesquels on ne met pas le même sens. Donc je trouve l'exemple, c'est pour ça que je me suis permis de réagir là-dessus.
Merci.
On le retrouve dans le Rasselnaut, l'épice. C'est la tête des épices, c'est le meilleur.
Réaction ? Témoignage complémentaire ? On enchaîne sur la... On va enchaîner sur la deuxième... sur la troisième vidéo, un petit peu plus longue. Extrait d'un film qui s'appelle Les Roses Noires.
Bonjour, t'as envie de dire bonjour. Il est venu dire wesh.
Ah, c'est bon, je vais t'en faire mal.
Tu fais ça, bécif. On va voir au Mugo, Zama, Basnika,
Zul. C'est un mix de langues.
Gadi, Gadjo, c'est juste
un. On parle l'arabe, du malien, et après, on parle avec ça.
Un jour, je vais vous dire Jibikrap, après, un autre jour, ils vont vous dire un autre mot. Après, un autre mot, en fait, c'est
un. Pour nous, c'est un jeu. Enfin, ça nous fait rire. Tu vois, t'es là, t'es à côté, tu comprends pas, mais on s'en fout, on parle quand même. Le côté école, ça nous permet, enfin, pas de nous évader, tu vois, mais de nous sentir entre nous. Par exemple, je vais dire chiné. Pour toi, chiné, t'entends quoi par là?
Fermer boutique.
Ben non, chez nous, ça veut dire voler. Tu vois, ça n'a rien à voir.
Ça marque la trace du quartier. C'est pour dire que c'est nous qui l'a inventé. C'est tout pour moi, je sais d'où je viens, je viens du quartier, tout ça. Et en même temps, elle est importante pour moi. Parce que aussi, elle est aussi importante pour le quartier, aussi importante pour moi.
Il est avec des autres quartiers, je m'entends quelqu'un qui parle comme on parle dans mon quartier, je lui dirais, mais qu'est-ce que tu reprends mon mot? C'est comme si nous avons quelque chose. Pourquoi il reprend mon mot? Moi, je ne reprends pas ces mots, donc il n'a pas trop, je reprends mon mot. Cet accent-là, ça vient de Marseille, ah, elle est comme ça, elle est... après, ça fait une belle carte d'identité.
Je pense que c'est la langue aussi, elle joue un rôle, elle nous unit tous. C'est comme si j'avais oublié tout ce que j'avais vu. On a choisi aujourd'hui de parler dans la cité. C'est bien qu'elle ne soit pas comprise par tout le monde, mais en fait, des fois, à meneur dans ton emploi, et ben, elle a l'air d'être agressive ou les gens disent que c'est pas un bon langage, c'est pas du bon français. Et ça peut être un inconvénient. Et ça dirait que tu viens de citer déjà quand tu ouvres la bouche. Ils ont peur. Ils ont trop une image négative de la cité. Ils jugent par rapport à ce qu'ils voient à la télé. Ils viennent pas vraiment à notre rencontre pour savoir ce qu'on est vraiment. Et moi, je trouve que c'est triste.
Nous, quand on va à Paris, on sent que là-bas, on vaut rien, quoi, tu vois. Quand on va là-bas, ben, les gens, ils nous regardent de haut en bas, enfin, tu vois. On est différents. Ah, le langage soutenu, enfin, c'est pareil, il parle pas comme nous. On sent que on sent que c'est des gens bien, des gens civilisés, tu vois. Non, dans le sens où, enfin, c'est des gens, ils ont une éducation pas comme la nôtre, tu vois. Ils sont bien, ils parlent bien. Moi, j'aimerais bien savoir parler comme.
Pour moi, mon gars, c'est parler avec des mots secondes. Je dirais pas par les gens civilisés, parce que moi je préfère qu'on n'est pas civilisés, mais par les gens, par les Français. Sinon, je peux pas dire ça parce que je suis française aussi, mais je sais pas, par les gens qui ne viennent pas de banlieue en fait.
Ça fait bonjour, oui, je m'appelle Karina.
C'est ça, je pense que je te demande.
Ça, c'est horrible.
Je dis, c'est les mêmes, le même langage que nous, dehors. À part que nous, on change juste les mots. Mais si on ne changerait pas les mots, ben, ça serait le même langage.
Il est sérieux, lui, dans son game, là. Alors, lui, il a fait du gars bonnes airs pour rien. Ah, mais c'est pas lui, la dernière fois, il s'est fait pète en bas de moto.
Ouais. Ouais.
T'as fait quoi, sinon, hier soir?
Hier soir, c'était avec ta machine, je t'ai dit tout à l'heure.
Ah ouais, c'est vrai, merde.
Hier, à Paris, avec ma mère. J'ai pas parlé le langage des cités, j'ai parlé français. Mais j'étais un peu en galère pour parler français parce que, à force de parler le langage des cités, ben, on a l'habitude, on oublie le français. J'arrivais pas à dire des mots, je les étais. J'avais peur de me tromper sur un mot.
Moi aussi, c'est pas trop facile. Je préfère lire la critique, même s'il y a du genou, tu vois ce que je veux dire ou pas?
Ouais.
Ok.
Faut que je parle plus de la langue soutenue. Parce que des fois, si par exemple tu vas travailler, il y a des gens qui me disent des mots que je comprends pas. Enfin, je vais être un peu perdu en fait. Je vais pas comprendre. Il faudrait que je réfléchisse. Je vais pas dire non plus à la personne, mais vous pouvez reformuler pour que je comprenne.
Non. J'étais en conseil de classe et j'étais déléguée et je voulais parler, je voulais exprimer des choses et j'avais peur de faire des bavures. Et c'est là où j'ai senti une sensation bizarre que j'avais pas senti avant, que en fait j'avais pas confiance en moi quand je parlais. Et ça m'a paru bizarre. Puis, depuis ce jour-là, j'essaie d'éviter un maximum. C'est comme quand il nous est arrivé quelque chose du million, ben, on évitait d'y penser un maximum.
Même maintenant, il y a des mots qui me manquent et je le sais. Mais je sais que le jour que je vais aller chercher du travail, c'est sûr que. Il faut que j'apprenne. Mais je sais que je parle bien le français et tout. Mais je ne le manie pas encore comme il le faut. Mais les jours où je vais l'avoir, et on verra.
Je veux être au même niveau que les autres. Ça existe, les gens plus haut niveau que d'autres. Mais pas une grande différence. Après, c'est trop, c'est humiliant. Pourtant, on a tous été dans la même école, on a tous fait maternelle, primaire et collège, lycée. Et pourtant, ils connaissent plus de choses que nous et nous.
On est un peu rejetés par la France, on va dire. Parce qu'on est des enfants de quartier, on est des enfants de banlieue, on n'est pas forcément bien vu par les gens de grandes villes comme Paris, tout ça.
C'est parce qu'on est des têtes cramées que c'est bon. Peut-être cramé, c'est avec les Arabes et les Noirs, nous disons des têtes qui passent pas. Ils auraient pas dû nous mettre là dans ces blocs. Ils auraient dû tous nous mélanger, ce serait bien sûr les mélanges. Pourquoi ils ne mélangent pas avec les Français, avec les quartiers sud?
Surtout ma prof de maths,
parler dans la langue française parce que j'ai un peu. Wesh, c'est pas du tout dans la langue française. Je dis pas wesh la famille ou tout comme ça. C'est pas du tout dans la langue française. En même temps, elle nous aide à mieux parler la langue française et pour qu'on parle plus ce langage. Mais dans la classe, personne n'arrive à parler ce langage comme ça. J'ai pris l'habitude du langage de quartier. Voilà, et quand la prof, à chaque fois, elle me reprend quand j'ai un truc du quartier, ça m'énerve. C'est pas facile en fait à retenir. Parce que, une fois que vous avez trois cours de français, juste après dans la cour de 15h20, la récréation, bah, vous allez voir vos copains et copines et bah, vous allez employer le langage des cités.
La pire chose qui puisse t'arriver à l'école, c'est quand tu doutes. Quand tu doutes de tes capacités ou quand tu doutes de l'école en elle-même, tu vois, tu te dis, vas-y, l'école, ça sert à rien. Enfin, il y a des grands que moi, je connais, tu vois, ils ont Bac plus 5, ils leur servent à rien, ils sont vigiles à Carrefour. T'as envie de faire un métier, au final, tu sais que t'auras rien. Enfin, tu penses que t'auras rien, c'est pas que tu sais, c'est que tu penses. Tu baisses les bras.
Je parlerai pas à ce tenue. Pour moi, c'était voilà, juste à la plus fine, il fallait que je parle de partout comme je parle. J'arrivais, exemple, j'aurais eu un entretien avec un patron, je parlais, ouais, ben ouais, je suis comme ça, fallait sur la chaise et tout. Alors que là, aujourd'hui, je commence à rentrer dans la vie active, je travaille et tout. Il faut que j'ai un langage que voilà, que qui est approprié à tout le monde, que tout le monde comprenne.
C'est juste un petit extrait, enfin 10 minutes quand même, mais un petit extrait d'un film qui est plus long et vous avez le lien si vous voulez le visionner en entier. Alors peut-être qu'on pourrait avoir quelques échanges sur ces questions de... Là on a d'autres, je vais dire, d'autres thématiques qui apparaissent, le rapport au code, la question des codes, le mot a été employé deux fois, la question aussi du rapport à une certaine identité, à la fois identité du quartier, identité personnelle, ce rapport à, au bon, entre guillemets, au bon français, ou au parler français-français, comme dit une des filles. Cette question aussi de la confiance, le sentiment de ne pas avoir confiance, ou peut-être même en sous-jacent le sentiment que l'adulte, alors on voit bien que les adultes peuvent être soutien, peuvent faire confiance, mais on sent bien qu'ils ont besoin pour avoir confiance qu'on leur fasse confiance finalement. Donc on retrouve ça aussi dans le... Et puis bon, voilà, la question du passage d'un langage à un autre, comment on compose quand on passe de la classe à la cour de récréation et la capacité ou la difficulté à composer finalement dans ce passage entre des langages différents. Il y a d'autres thématiques, mais voilà, c'est juste simplement pour vous justifier pourquoi on a sélectionné aussi ce passage précisément. Réaction ?
Je me demande s'il n'y aurait pas une forme d'effet Pygmalion dans le sens où, en jugeant leur... codification langagière, on serait pas dans le... Ils s'auto-étiqueteraient pas comme des individus qui seraient pas capables de parler le langage français soutenu qu'on attend d'eux.
Alors, vous êtes sur quelle hypothèse explicative ? Pourquoi ils sont dans cette logique-là d'auto-étiquetage ? Effectivement, ça apparaît...
Je pense qu'on a tendance à stigmatiser leur manière de parler et qu'ils intériorisent ce stigmate en se disant qu'ils ne sont pas capables de parler le français soutenu, alors que quand on le voit en établissement, ils savent tout à fait s'adapter. Mais quand ils ne cherchent pas à le faire, ils savent tout à fait s'adapter à la pratique langagière de l'adulte qui est en face. En revanche, quand ils essayent de le faire, on constate un peu plus de difficultés.
Oui, malgré tout, elles évoquent plusieurs défis, l'idée qu'il faut l'apprendre.
Il n'y a pas forcément d'auto-étiquetage, mais que si elles veulent travailler, si elles veulent peut-être réussir même à l'école, il y a une forme de il y a un apprentissage presque d'une langue différente.
Oui, c'est des Français qui sont différents, mais j'ai l'impression que en stigmatisant leur manière de parler le français, on leur transmet l'idée qu'ils sont pas capables de parler le français soutenu qu'on attend notamment en ce qui concerne le monde du travail. Et ça, j'ai l'impression qu'ils l'intériorisent et ça les limite dans leurs apprentissages en fait, et ça les empêche d'atteindre le français soutenu qui visiblement eux aussi ont envie d'atteindre.
Ouais. Okay. Autre réaction, témoignage par rapport à ça. On retrouve dans le aussi ce que vous avez évoqué, cette idée d'aller à la rencontre aussi. Je ne sais plus qui a évoqué ça tout à l'heure, en disant qu'à un moment, l'adulte, il est bousculé, mais est-ce qu'il fait ce qu'il faut pour aussi s'intéresser à ce type de langage et pour aller à la rencontre des jeunes pour essayer de mieux les comprendre. Là, on l'entend aussi. C'est-à-dire qu'ils se sentent aidés, mais il y a aussi cette idée qu'il y a ce décalage qui est quand même... Ils attendent des adultes, mais les adultes, ils ne savent pas trop s'ils vont assurer finalement sur cette question-là.
Si je peux me permettre, dans le reportage, vous avez vu également, ou entendu, les jeunes qui interviennent disent toujours, on a l'impression qu'ils sont toujours dans une catégorie, il y a nous et il y a eux. Ils disent d'ailleurs à certains moments, ils veulent pas, qui est ce il, qui sont ces autres dont parlent ces jeunes selon vous?
Ces jeunes dont parle, qui sont les autres, je pense qu'ils font référence aux personnes qui vivent dans le monde extérieur, allant à l'extérieur du quartier, où le mode de vie est vraiment assez différent en soi, en fonction de l'apparence, la façon comment se comportent les gens, la tenue, la parole. Et on peut dire que la manière comment les jeunes s'expriment, c'est qu'en fait, il y a deux modes de vie différents en soi.
Mettez le micro vers votre... Voilà. Dirigez-le vers vous, sinon on n'entend plus après.
Autant pour moi.
Nickel.
Deux univers qui ne peuvent pas vraiment coexister ensemble parce que la mentalité, elle est différente et du coup, c'est assez tendu parfois.
Bah, pour rebondir sur ce que a dit Vincent, il y a aussi la question, et ils en parlent dans le documentaire, du groupe d'appartenance. Ils le disent, elle le dit, la fille, elle appartient à son quartier, c'est ce qui fait la force de son quartier. Donc aussi, ce qui met, on va dire, ses limites entre, on va dire, quand ils disent « ils », donc en parlant de, on va dire, du monde extérieur, c'est parce que par rapport, il y a ce côté où il y a ce groupe d'appartenance, où pour que les enfants puissent se sentir, même par rapport à leur langage, en communauté, il faut qu'ils appartiennent à ce groupe. Et c'est ce qui, elle le dit, la fille fait la force de son quartier.
Oui. Moi, j'ai aussi, pour aller dans votre sens, j'ai aussi le sentiment qu'il y a... que la question du langage, c'est une question parmi d'autres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Il y a ce lien avec la manière dont... Enfin, le sentiment qu'ils peuvent avoir d'être regardés d'une certaine manière ou de ne pas être mélangés avec les autres. C'est-à-dire que, finalement, le langage est un des éléments, mais ça fait partie d'un tout. Ils insistent là-dessus. L'identité du quartier, c'est beaucoup de choses. C'est habiter la ville d'une certaine manière, c'est parler d'une certaine manière, c'est peut-être s'habiller d'une certaine manière ou circuler d'une autre manière. On a l'impression qu'il y a ce rapport à l'identité l'identité effectivement du groupe d'appartenance ou du quartier et qui paraît assez déterminante sur leur identité, la construction de leur identité personnelle.
Moi, ce qui m'a interpellée dans le reportage, là, c'est y a une jeune fille qui dit à un moment donné que finalement, ce langage, elle a cette possibilité de l'exploiter un tout petit peu pendant les cours, mais qu'une fois retournée dans la cour de l'école, le langage un peu de quartier ou de cité, peu importe, finalement prend le dessus. Et finalement, j'ai l'impression, selon ses dires, qu'elle manque d'espace finalement pour la pratiquer, cette langue qui... après il y a un petit peu une question d'inégalité sociale dans le sens où une fois sorti du contexte de l'école où on a cette possibilité de pouvoir exploiter cette langue qu'ils ont l'air d'admirer souvent en pensant que ça leur est presque inaccessible, avec une image aussi un peu erronée de ce qui peut se passer à l'extérieur des quartiers. Tout le monde à l'extérieur des quartiers ne manipule pas le français soutenu, c'est une image un petit peu erronée. Et ce que je trouve assez cruel, c'est que ces jeunes-là sont tout à fait en capacité de se projeter. C'est exprimé à plusieurs reprises. Quand je vais devoir aller chercher du travail, ça va coincer. Il va falloir que je m'y mette, il va falloir que j'apprenne. J'ai l'impression qu'ils se dévaluent un peu en projetant une image sur ce qui peut se passer à l'extérieur du quartier, complètement erronée, comme les personnes à l'extérieur du quartier peuvent avoir aussi une image erronée de ce qui se passe dans les cités. Tous les jeunes des cités ne parlent pas comme ça. Il y en a plein qui sont tout à fait en capacité de jongler entre les divers... diverses facettes de la langue française. Et moi, c'est plutôt ça qui m'a interpellée. Alors, ce n'est pas une question, c'est plutôt une remarque, mais j'ai l'impression qu'il y a une confusion un petit peu des genres aussi, une petite stigmatisation, mais qu'ils s'infligent à eux-mêmes, en fait, et je trouve ça assez terrible. Quand ils parlent du quartier, on a presque l'impression qu'ils parlent d'un pays étranger, quoi. C'est le quartier, les Français, alors qu'ils le sont aussi. Et vraiment, moi, ça m'a un peu choquée. Je trouve ça un peu dur, en fait.
On retrouve le « eux » et « nous » qu'évoquait Laurence. Juste devant, la dame... Juste là, devant. Faites passer devant.
Moi, je rejoins la personne, enfin madame, là, sur le côté effectivement de non-appartenance en fait. Enfin, ils appartiennent à une communauté qui a son propre langage, effectivement ses propres codes, comme vous le disiez tout à l'heure. Et en même temps, ils renvoient que il y a le langage des cités et le français. Or, on peut supposer quand même que même si on a plusieurs cultures, on arrive à pouvoir aussi imaginer. On peut être bilingue, on peut être trilingue. Enfin. Et aujourd'hui, ça pose pas forcément. Enfin, voilà, il y a eux, il y a nous, il y a une espèce de dichotomie entre la vie de la cité. Et moi, j'ai travaillé en géographie prioritaire et j'ai pas le. Enfin, c'était pas aussi prononcé en tout cas dans le quotidien. Donc, je sais pas si il faut y voir aussi peut-être une position des jeunes filles dans un groupe aussi où on se crée une communauté, une identité. Il y a une jeune fille qui disait « Je me suis sentie humiliée, mais quand on fait force ou quand on fait groupe, eh ben, on arrive aussi à trouver des ressources ou en tout cas à faire que son réseau soit protecteur aussi de soi. » Donc peut-être que ces questions entre le « il » et le « nous », c'est aussi un moyen de s'émanciper ou de trouver des ressources collectives en fait à l'inconnu, à la peur, à, je sais pas, enfin voilà, mais en tout cas, je serais assez intéressée d'avoir les mêmes échanges avec des jeunes garçons de la cité. Je pense qu'ils reprendraient les questions du langage, mais peut-être pas la question du positionnement aussi fort que les jeunes filles le mettent en disant mais il faut appartenir à cette communauté, dont la langue fait partie.